J'ai leur droit de sentir comme cela. Moi, je ne l'ai pas senti comme ça. Et pareillement, analoguement, je ne vois pas de contradiction entre l'humilité que chaque personne doit avoir, surtout s'il se sait porteur d'un message qui ne vient pas de lui, je pense à tous les pasteurs d'une manière générale, et le faste qui alors ne dépend probablement pas du personnage lui-même. En l'occurrence, pour la visite du pape en Suisse, n'oublions pas que pour une bonne part, ce qui va entourer son accueil ne dépend pas de lui, mais de ceux qui le reçoivent, voire des mesures que l'on prend pour des raisons de sécurité ou autres.
Monsieur Bayou ?
Oui, alors moi, il me semble qu'effectivement, il y a une très grande contradiction. Je ne pense pas que c'est le pape lui-même qui en soit responsable, mais en tout cas, l'institution de la papauté, qui donne une image de ce qu'est l'Église, de ce qu'est le peuple de Dieu, qui correspond finalement très peu à l'image que nous pouvons découvrir dans l'Évangile. En effet, cette institution nous donne l'image d'une église centralisée, hiérarchique, une église d'autorité, d'un magistère, alors que pour notre part, nous comprenons le rôle de service de l'église comme justement un service, c'est-à-dire un ministère. Ce qui fait que ces grands spectacles nous gênent très souvent.
Qui veut répondre, Laurent Boutier ?
D'abord, grand spectacle, c'est à voir, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'un grand spectacle? Il faut aussi dire que le pape, lorsqu'il va à la rencontre de la communauté, des fidèles, des gens partout dans le monde entier, il va d'abord pour apporter un message, mais aussi pour les entendre. Si j'ai bien compris, monsieur le pasteur Payu, au fond, il porte une critique plutôt à l'institution de la papauté. C'est moins au voyage du pape en Suisse. Parce que l'institution de la papauté, c'est un problème effectivement important. J'admets qu'il peut amener à discussion. J'admets aussi que c'est un des points qui probablement nous sépare, malheureusement, nos catholiques, de l'Église réformée, ou en tout cas d'une grande majorité d'entre elles. Mais pour ce qui est de la visite en Suisse, parler de grands fastes et autres, ça me paraît disproportionné. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Le pape, je vois simplement à Fribourg, il va loger à Villars-sur-Glâne dans une chambre à peu près d'étudiants, c'est en tout cas pas un 4 étoiles. Par contre, les grandes réceptions, c'est surtout le monde qui tient à le voir, les gens qui désirent approcher un peu ce pape, cet homme d'exception. Et sous cette forme-là, en Suisse, il n'y a pas de grand banquet, il y a la réception du lot, on aura plutôt l'occasion d'en reparler, mais je ne vois pas le faste qu'il y a dans la réception en Suisse. Alors, si c'est l'institution même de la papauté, alors je pense que là, on entre déjà dans des questions plus fondamentales.
Que nous verrons peut-être tout à l'heure.
C'est ça.
Maître Vimit.
Oui, alors moi, en ce qui me concerne, j'ai un intérêt donc, qui est plus prosaïque, qui est celui du coût de cette opération. Il semblerait quand même, selon les chiffres que l'on m'a donnés, que cette visite va coûter au peuple suisse quelques 2 millions de francs suisses, et cela sans compter donc, les frais nécessaires pour assurer la sécurité du Saint-Père et de sa suite. C'est donc très cher, et j'imagine de surcroît que ces frais seront pris en charge par l'ensemble des contribuables, croyants comme non-croyants.
On va peut-être tout de suite demander à Mgr Chéry si c'est exact.
Je pense qu'on a un peu trop d'imagination. Quand vous imaginez cela, vous l'imaginez un petit peu trop fort, parce que je ne vois pas comment nous pourrions demander aux contribuables de financer des frais concernant la visite du pape en Suisse. Je ne vois pas sous quelle forme et de quelle manière. Il y a des contributions qui sont demandées d'une manière absolument libre. Il n'y a aucun billet d'entrée. Il n'y a même pas de vignette obligatoire qui serait payante. Les fidèles qui veulent donner quelque chose donnent. Ceux qui ne veulent pas ne donnent pas. C'est une participation absolument libre.
Oui, il y a quand même des frais, de toute façon, qui sont là et qui seront pris dans la caisse de l'État.
Ce chiffre de 2 millions donc, a été avancé par la presse. Est-ce que ça correspond à quelque chose?
Probablement que ça correspond à quelque chose. Je ne l'ai pas encore d'une manière certaine sur ma table comme président de la conférence, parce qu'il y manque encore un certain nombre d'éléments. Mais pour une partie de ces frais, je pense qu'il y a de très gros malentendus. Il y a des frais réels qui sont, par exemple, les frais de transport, qu'on peut sommer, contrats ont été signés avec la compagnie Crossair, par exemple. Alors, ces frais, on peut les chiffrer, c'est évident. On peut aussi chiffrer...
Et qui paye ça? C'est l'Église catholique.
Ah, c'est l'Église catholique, et sous la forme de quêtes demandées aux fidèles qui participeront ou ne participeront pas.
Alors, je pense qu'il était utile de d'éclairer ce point précis. Laurent Wittier?
Oui, peut-être encore une précision à la question de madame. Je me suis renseigné à Fribourg. En ce qui concerne, en tout cas, l'organisation à Fribourg, pour la visite du pape, le budget est de 231 000 francs. Et on constate un peu, comme d'ailleurs au niveau suisse, que la répartition se fait un peu de ces frais par tiers. Il y a un tiers avant tout pour les structures des médias, un tiers pour les infrastructures et constructions. Je vois qu'à Fribourg, on a construit un grand podium qui n'existait pas. Ce qui, là, c'est peut-être un des points que l'on peut discuter. La commune de Fribourg a elle-même voté un budget complémentaire de 32 000 francs pour cette construction. C'est un des points qu'on pourrait discuter, si vous le souhaitez, parce que, personnellement, j'aurais préféré que ce ne soit, qu'on n'ait pas besoin de faire appel, par exemple, à la commune de Fribourg. Et le dernier tiers, c'est la sonorisation, les imprimés, etc. Et si vous comptez qu'à Fribourg, on estime qu'il y aura, il y a déjà inscrit 1 000 journalistes pour la visite du pape. Ça veut dire quand même des infrastructures considérables qu'il faut faire, dont nous ne disposons pas sans cela. Et tout cela, en fait, est pris sur une organisation, à part les 32 000 francs dont je vous ai parlé, de la commune, et les frais de police extérieurs, parce qu'ils font malheureusement des mesures de sécurité, c'est en tout cas pas le pape qui les demande, c'est malheureusement, vous savez ce qui s'est passé, on est obligé de le faire si on veut accueillir quelqu'un qui a eu de pareils attentats et qui, d'autre part, subit malheureusement des menaces, et si on veut assurer la sécurité des autres, eh bien, à part cela, tout est couvert uniquement par l'Église catholique. Chez nous, en tout cas, et je crois que c'est au niveau suisse la même chose.
Sur cette question des frais
sur la question des frais.
Alors, on revient
mais
plutôt
on discutera, l'avenir nous le dira oui. En réalité, qui a payé quoi.
Tout à fait. Tout à l'heure, M. Buti évoquait la question de fonds. On parle de la papauté, mais il me semble alors qu'il faudrait que nous soyons bien clairs, et j'aimerais dire sur quel point de ce voyage du pape en Suisse porte nos réserves. Et quand je dis nos réserves, c'est celle de nombreux protestants, certainement plus nombreux que ceux qui se sont manifestés, qui ont accepté de se mouiller. Dans le fond, nous n'avons rien contre le fait que le pape visite ces fidèles catholiques en Suisse. Et si ce n'était que cela, eh bien, nous nous réjouirions avec nos amis catholiques. Par contre, il y a une ambiguïté fondamentale dans cette visite qui a toujours été annoncée comme étant une visite pastorale aux catholiques suisses et qui, notamment par le fait de la réception du pape par le Conseil fédéral incorporé, devient finalement une affaire d'État, une affaire qui concerne tout notre peuple. Et vous avez d'autre part évoqué le nombre des journalistes qui seront à Fribourg. De par l'ampleur, l'écho que vont donner les médias à cette manifestation, là aussi, nous sommes un peu inquiets. Nous nous demandons s'il n'y a pas finalement, dans ce genre de visite, avant tout un but de propagande. Un autre point sur lequel...
On va peut-être parler de ce point précis. Après, nous reviendrons aux autres points.
Je voudrais préciser le dernier point. Le dernier chapitre, disons, sur lequel certains protestants ont des réticences, c'est justement sur la rencontre écuménique avec le Conseil de la Fédération des Églises protestantes.
On va parler peut-être de la réception du pape par le Conseil fédéral incorporé. Laurent Buti.
Eh bien, la réception du pape incorporé au Laune est déjà une réception restreinte, parce que le pape n'est pas reçu, comme les chefs d'État habituels, au Parlement, avec fanfare, armée, garde à vous et tout. Le pape est simplement accueilli au Laune par le Conseil fédéral incorporé, c'est vrai. Et c'est cela, d'après ce que j'ai lu, qui au fond a donné lieu à discussion. J'en étais un peu étonné de cette réaction. Parce que qu'il y ait 2, 3, 4, 5 ou 7 conseillers fédéraux pour voir le pape au Laune et partager... La discussion et la rencontre, ça ne change pas fondamentalement le problème. D'ailleurs, en Suisse, le chef d'État, c'est le Conseil fédéral incorporé. C'est un collège. Le président de la Confédération n'est jamais que le président d'un collège. Ça a toujours été ainsi. Je relèverai d'ailleurs que très souvent, le Conseil fédéral a reçu des chefs d'État, même des chefs d'État qui sont des chefs d'Église. Pensez à la reine d'Angleterre, qui est en même temps la chef de l'Église anglicane. On n'a jamais discuté. De plus, je pense qu'il aurait été curieux, et sûrement qu'il y aurait eu des reproches, si le Conseil fédéral avait ignoré la visite du pape en Suisse, même si c'est une visite d'abord pastorale. Je pense qu'il y aurait eu des discussions.
On va demander à vos vis-à-vis d'expliquer pourquoi cette réception les a tellement choqués. Maître Imitch.
Mais écoutez, je pense qu'on accorde quand même une importance démesurée au pape lui-même, et surtout à ce qu'il représente. Donc je pense que si le pape est accueilli par le Conseil Conseil fédéral incorporé, c'est avant tout non pas comme chef religieux, mais comme chef politique. Et du reste, c'est un des aspects certainement de cette visite qui nous préoccupe le plus, à savoir, je crois qu'il faut bien avoir en tête que le pape est quelqu'un qui a de l'influence, tant parmi les catholiques pratiquants que parmi ceux qui ne pratiquent pas, du reste. Et il tombe à pic, si l'on peut dire, dans le climat politique actuel, puisqu'on en assiste quand même à une vague de retour du conservativisme, en tous les cas, en matière de politique sexuelle et familiale. Il y a donc, du côté des conservateurs, de nettes tendances à l'heure actuelle, donc à revenir en arrière par rapport à certains types de comportements dans ce domaine. Et il est évident que la visite du pape ne peut qu'ajouter de l'eau au moulin des conservateurs de notre pays en l'état actuel des choses.
C'est aussi
et là, je me réfère à l'initiative pour le droit à la vie, par exemple, voilà. Dont je pense qu'on aura l'occasion de rediscuter.
Concernant la réception par le Conseil fédéral incorporé, quel est le sentiment de l'homme d'Église?
Oui, je vais volontiers m'exprimer avec, en trois secondes, un coup d'œil très fraternel à M. le pasteur Pahure, lui disant que vraiment, vous m'avez fait faire ouf tout à l'heure en disant « Mais nous ne contestons pas que le chef de l'Église visite pastoralement son Église. »
De l'Église catholique.
Catholique.
Oui.
Visite les gens de son Église, mais bien sûr. Je fais ouf parce qu'alors nous nous situons sur un terrain qui est beaucoup plus clair pour moi. Il s'agit alors d'un certain nombre de retombées importantes, mais qui sont finalement des à côté. Alors ces à côté-là qui sont importants, on est en train d'en débattre. Un premier grand à côté, le problème du Conseil fédéral. Là également, je suis très heureux d'avoir entendu certains propos de Maître Vimitch, parce que lorsque vous dites que ce n'est pas en tant que chef religieux qu'il est reçu par le Conseil fédéral, j'amène de l'eau à votre moulin. Très probablement qu'il en est ainsi. La preuve, je suis président de la conférence des évêques et je ne suis pas invité à cette rencontre avec le Conseil fédéral. La conférence des évêques a toujours, non, pas du tout, la conférence des évêques a toujours précisé qu'elle voulait une visite pastorale du pape. Elle s'est arrêtée à organiser ce que nous avons par ailleurs dans le programme, les différentes rencontres dans les différentes villes épiscopales avec différents groupes, y compris avec des groupes de travail d'ordre écuménique par exemple. Mais nous ne nous sommes jamais occupés de savoir s'il serait reçu par le Conseil fédéral ou non reçu. Personnellement, je ne serais même pas présent au Louvre.
À l'évidence, il devait être reçu. De toute façon, le pape n'est pas...
Alors ça fait partie de ce que j'appelle les retombées.
En tout cas, dans les faits, je crois que c'est indiscutable.
Ça fait partie de ce que j'appelle les retombées, un peu comme pour les problèmes de presse.
Mais cela dit, moi j'aimerais dire quand même que quand Indira Gandhi est venue en Suisse, elle était accueillie alors qu'elle est... chef d'État d'un pays qui compte quelques 700 millions d'âmes, hein, donc plus d'âmes que celles qu'on trouve au Vatican, puisque le Vatican est un État, elle a été accueillie par deux conseillers fédéraux seulement. Alors je trouve quand même que ça laisse la porte ouverte à la réflexion. En tous les cas.
Vous avez dit que vous n'étiez pour rien dans cette visite. Vous me permettrez d'en être pas tout à fait sûr. Par exemple, lorsque le pape s'arrête dans mon canton à Lausanne, 10 minutes en train, c'est quand même... la conférence des évêques qui prend contact avec notre Conseil d'État pour lui dire comment le pape entend être accueilli et salué.
Il faut s'entendre, j'ai dit la visite du Conseil fédéral au Lône. C'est cela que j'ai dit. Je n'ai pas parlé des autres rencontres.
C'est aussi une rencontre avec les autorités politiques dans le canton de Vaud.
Ah oui, dans les cantons, c'est autre chose. Dans les cantons, nous avons pris contact, nous évêques, avec les autorités cantonales avec lesquelles nous sommes habituellement en relation. Vous n'ignorez quand même pas que, comme évêque du diocèse de Sion, il y a un territoire vaudois dans mon diocèse qui est le district d'Aigle. Eh bien, régulièrement, chaque 6 ou 7 ans peut-être, il y a une rencontre avec le Conseil d'État vaudois et les évêques ayant juridiction sur leur territoire. Il me semblait la moindre et courtoisie. Alors là, que nous nous intéressions à informer les autorités cantonales, leur demandant « Désirez-vous une rencontre, oui ou non ?»
Oui. Tout à fait. Alors, peu importe les responsabilités, il n'en demeure pas moins... que, à nos yeux, le Conseil fédéral a commis une erreur. en acceptant de recevoir le pape incorporé. Une erreur parce que cela accentue un déséquilibre entre les confessions dans notre pays. Or, notre pays vit de par sa neutralité confessionnelle. Et sur ce point-là, alors j'aimerais dire que les protestants, des protestants très nombreux, je ne peux pas parler au nom de tous, mais des protestants très nombreux ont contesté ce fait, y compris dans les autorités les plus représentatives de notre protestantisme, le Conseil de la Fédération des Églises protestantes de Suisse, au début 81, lorsqu'il s'agissait du premier projet de visite du pape, avait envoyé au Conseil fédéral une lettre assez ferme, lui demandant de ne pas recevoir le pape, non pas de ne pas le recevoir du tout, mais en se déplaçant en son entier, parce que on voit là un très grand déséquilibre. Je prends un exemple. Quand le pape vient, le Conseil fédéral l'accueille dans son entier, mais quand un personnage qui a aussi le droit au titre de sa sainteté, comme il y a deux, qui est, si je ne m'abuse, le métropolite de Géorgie, est reçu officiellement par la Fédération des Églises protestantes de Suisse, le Conseil fédéral ne délègue que l'un de ses membres. Pourquoi ce déséquilibre? Et pourquoi aussi le Conseil fédéral recevrait-il le pape en entier, alors qu'il n'accorde pas cet honneur aux représentants des confessions de chez nous, c'est-à-dire à vous, la conférence des évêques,
qui répond
à nos autorités.
Alors écoute, moi je suis vraiment très étonné, je partage en fait la conception de Mme Dinitz. Moi je trouve que vraiment ne pas le recevoir, ce serait inadmissible à mon avis. Le recevoir incorporé, je pense que c'est aussi un geste de courtoisie, mais... Écoutez, vous citez un archevêque orthodoxe, n'est-ce pas, qui n'aurait pas été reçu par le Conseil fédéral incorporé. Bien, je crois d'abord que là, qu'on le veuille ou non, c'est vrai que c'est un petit État, le Vatican, il y a moins d'habitants que l'Inde, c'est clair. Mais enfin, c'est une institution de droit international qui a la personnalité juridique et qui est reconnue par le droit international et par la Suisse. Nous avons un nom ici qui est ambassadeur en Suisse. Hein. Nous n'avons pas d'ambassadeur à Rome, c'est un des cas uniques où il n'y a pas. Et je crois que c'est très bien que pour l'instant on ne touche pas trop ce problème. Parce que de querelles, il ne faut surtout pas encore les susciter. Mais en attendant, c'est une fin faite. Le pape, qu'on le veuille ou non, est le chef de l'État du Vatican. Deuxièmement, il faut aussi quand même constater que le pape, comme chef spirituel, est quand même le chef spirituel d'une église qui représente la moitié du peuple suisse, du peuple habitant en Suisse, plus de 3 millions. C'est une réalité qui est quand même autre que uniquement, par exemple, les orthodoxes russes, que j'apprécie beaucoup. Mais enfin, la moitié du peuple suisse, c'est quand même quelque chose, n'est-ce pas? Et si les protestants avaient un chef, vous avez une autre conception, ce qui est votre droit le plus strict, n'est-ce pas? Mais avaient aussi un chef de cette envergure et qui soit aussi... Mais pourquoi pas le Conseil fédéral ne le recevrait-il pas? Dernière remarque sur la réception du Conseil fédéral, dont j'ai bien dit qu'elle ne se passe qu'au Lône, elle n'est pas dans les grands fastes habituels des réceptions pour M. Mitran, pour la reine d'Angleterre et tout. Mais si on avait mis que 3 ou 4 conseillers fédéraux, on aurait mis, je ne sais pas moi, les 2 catholiques, il aurait fallu ajouter encore un roman, ensuite on aurait dit, ah oui, mais il faut encore mettre combien de protestants, combien de catholiques, enfin vous voyez. Je trouve que c'est beaucoup plus clair que ce soit le Conseil fédéral incorporé, qui est divers, qui est pluraliste comme l'est ce pays, et qui en même temps, comme je l'ai dit avant, est en fait celui qui détient la qualité de chef d'État. C'est le Conseil fédéral.
Maître Limitz.
Oui, alors moi j'aimerais dire quelque chose au sujet justement de ce problème d'atteinte à la neutralité confessionnelle ou de mise en danger de la neutralité ou de la paix confessionnelle. On a un peu l'impression de revenir au climat des guerres de religion. Je crois vraiment, alors qu'il y a une chose qui est certaine, c'est qu'actuellement le débat religieux dans notre pays est bien dépassionnalisé. Nous sommes loin du fanatisme d'il y a encore 100 à 150 ans, et c'est une bonne chose. Et je crois qu'une nette séparation entre le pouvoir d'État et le pouvoir de l'Église y a contribué. Ça, j'en suis absolument convaincue.
Donc, vous passez de l'autre côté de la table. Ça ne vous gêne pas, au fond, cette réception au Lône?
Non, la réception me gêne dans la mesure où, effectivement, on accorde une importance extraordinaire, parce que ça va être le cas, puisque les médias vont rediffuser cette visite quasiment 24 heures sur 24, enfin presque. Ce qui me gêne, c'est qu'on favorise alors le courant d'idées qui est véhiculé par le pape. Et c'est par rapport à ça que nous avons des critiques à faire.
Monseigneur Schwerin.
C'est quelque chose d'autre que j'aimerais ajouter. J'ignore totalement ce que le pape va dire au Conseil fédéral. Mais personnellement, je souhaite de tout mon cœur qu'il lui pose un certain nombre de questions. Il y a tout de même urgence à travers le monde à ce que des gouvernements entendent d'une autorité spirituelle ou morale un certain nombre de mises en question concernant la paix dans le monde, concernant les rapports de justice et d'équilibre. Et s'il y a quelqu'un dans le monde qui a un rayonnement comparable à Jean-Paul II face aux différents gouvernements des États que nous connaissons, je souhaite qu'il soit reçu aussi par notre Conseil fédéral. En l'occurrence, j'espère de tout mon cœur que le pape aura aussi, à l'égard du Conseil fédéral, des questions à lui poser et des arguments avancés pour nous aider ensemble à vivre un certain nombre de valeurs chrétiennes. Ceci dit, je suis absolument convaincu qu'il ne va pas parler confessionnalisme avec le Conseil fédéral.
Écoutez, je ne sais pas, j'espère, j'aimerais bien qu'il ait ce rayonnement par rapport à la paix dans le monde, je n'en suis pas convaincue. Cela dit, nous savons tous ce que pense le pape par rapport à des sujets qui sont fondamentaux, comme celui de la famille et de la sexualité dans la famille, l'avortement, la contraception, qui est un point extrêmement important, qui est un progrès, les relations sexuelles avant le mariage, le concubinage, le divorce, toutes ces questions-là. Le pape représente en fait un courant d'idées extrêmement conservateur, et c'est ça en fait qui va passer en premier lieu. Parce que pour les gens, c'est ce message-là, malgré tout, qui est reçu. Avant toute chose...
J'aimerais juste rappeler à nos téléspectateurs qu'ils pourront participer à ce débat bientôt grâce au numéro de téléphone qui apparaît de temps en temps sur l'écran. Si vous le permettez, on va peut-être aller un peu plus loin dans le débat, et c'est en rapport d'ailleurs avec ce que vous venez de dire. Au fond, le pape, qui vient-il voir en Suisse? Est-ce qu'il vient voir les catholiques? Est-ce que c'est le chef de l'Église catholique qui vient voir ses fidèles? Ou est-ce qu'il vient pour tout le monde, pour apporter un message controversé, on vient de le voir, à tous les Suisses, Monseigneur Schwerin?
Je crois que la chose est extrêmement claire. Il faut arrêter de rêver et d'imaginer des choses. Il faut prendre les textes, il faut recourir aux faits. Le pape a été invité à venir en Suisse par la conférence des évêques suisses à l'occasion, en 81, à l'occasion d'une invitation qu'il avait reçue du BIT. Si le BIT ne l'avait pas invité, je ne sais pas si nous l'aurions invité. Mais venant dans notre pays, il était au moins normal que les évêques l'invitent aussi. À la suite de l'attentat, il a dit à plusieurs reprises qu'il désirait revenir en Suisse. Nous l'avons réinvité formellement, nous, conférence des évêques. Donc nous l'attendons comme pasteur, à la manière des évêques qui, comme pasteurs, sont reçus dans les paroisses et font le tour de leur diocèse. Le pape fait le tour de ses diocèses, il vient chez les catholiques, il est invité par les catholiques en tout premier lieu. Cette visite pastorale s'élargit, toujours selon la conception de la conférence des évêques, et ceci est facile à démontrer, elle s'élargit à d'autres groupes qui ont exprimé le désir de le rencontrer. Je pense à l'Église orthodoxe par Monseigneur Damaskinos, par exemple, ou bien le conseiller œcuménique des Églises, qui également a fait son invitation, ou les groupes de travail œcuméniques, le groupe de travail des différentes Églises chrétiennes en Suisse, qui désire aussi cette rencontre, également avec le conseil de la Fédération des Églises protestantes de Suisse. Donc ça a été élargi par le fait qu'on a des collaborations assez ouvertes et des discussions avec nos frères de religion non catholique, et qui ont demandé à avoir aussi cet accueil. Donc il vient d'abord rencontrer les catholiques, également ses autres frères chrétiens non catholiques désirant le rencontrer, et c'est essentiellement ceci qui est vu. Maintenant...